France Inter.
Aujourd'hui, une nouvelle diplomatie pour la planète racontée par
David Farrey-Brook, écrivain, penseur politique, essayiste.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Depuis quelques années, les conférences mondiales sur le climat ressemblent de plus en plus à des arènes verrouillées où les intérêts des États et des industries fossiles prennent le pas sur l'urgence climatique. Ce constat s'est brutalement imposé à Dubaï lors de la COP28 quand la communauté internationale a découvert stupéfaite que son président, Sultan Al-Jaber, n'était pas seulement un diplomate chargé de guider les négociations, mais aussi le directeur général d'ADNOC, la compagnie pétrolière nationale des Émirats Arabes Unis. Cette confusion des rôles n'était pas un détail. Elle révélait l'imbrication croissante entre diplomatie climatique et intérêts fossiles. L'année suivante, en 2024, la COP29 à Bakou a confirmé cette dérive. L'Azerbaïdjan, pays hôte et producteur majeur d'hydrocarbures, a désigné à la présidence de la conférence un ancien cadre de la compagnie pétrolière nationale SOCAR. Plusieurs réseaux d'ONG ont dénoncé une trahison, estimant que les engagements financiers et climatiques adoptés à Bakou avaient été influencés par la surreprésentation d'États producteurs de fossiles et demeuraient largement insuffisant pour les pays les plus vulnérables. En ce moment, à Belém, au Brésil, ce phénomène a culminé, selon l'alliance internationale Kick Big Polluters Out. La COP30 réunit plus de 1600 lobbyistes des combustibles fossiles. Leur nombre dépasse de loin celui des représentants des pays insulaires et des nations les plus exposées aux catastrophes climatiques. Plusieurs observateurs ont parlé d'une capture corporative du processus de négociation, révélant que le cœur même de la gouvernance climatique était désormais occupé par les acteurs qui ont le plus intérêt à retarder la transition énergétique. Ainsi, alors que les rapports du GIEC se succèdent et que les signaux d'alerte s'intensifient, les institutions censées coordonner l'action mondiale pour le climat semblent entravées par des logiques de souveraineté, d'intérêts nationaux et de pressions industrielles. Les COP reproduisent structurellement les limites de la diplomatie classique, celle qui a été conçue pour gérer les relations entre États, non pour préserver l'habitabilité d'une planète devenue instable. Face à la montée en puissance des lobbies fossiles et à l'épuisement du multilatéralisme, comment créer les conditions d'une nouvelle diplomatie pour passer de la raison d'État à la raison de terre? C'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Je n'ai rien à lobbyiste, j'ai une tête de lobbyiste.
Vous ne défendez pas l'intérêt des
Non, je viens simplement expliquer ce que nous faisons. Et en l'occurrence, je peux le faire pour une autre raison. Un, les émissions, je les diminue. Et deuxièmement, nous investissons en ce moment, 25% de nos investissements sont dans des technologies bas carbone, dans des énergies renouvelables, 25%. Donc on met 4 milliards par an, donc j'ai aucune honte à venir à la COP et venir dire ce que nous faisons.
Patrick Pouyanet, le président directeur général de Total Energy, donc à Belém la semaine dernière. Bonjour David Van Reybroek.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions Actes Sud « Le monde et la Terre, comment les préserver ?», un livre dans lequel vous décrivez un système politique mondial qui peine à répondre au bouleversement du système terrestre pris dans des logiques nationales héritées, on va le voir, d'un autre temps. À l'heure où nous parlons, se déroule donc à Belém cette COP30, selon donc la coalition dont je parlais tout à l'heure, 1602 personnes ayant des liens avec des secteurs du pétrole, du gaz et du charbon, ils sont accrédités. On entendait Patrick Pouyanet. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je trouve que c'est extrêmement frustrant de voir comment l'endroit même où l'humanité devrait se pencher sur comment terminer notre accrochage aux combustibles fossiles est en bonne partie colonisé par le secteur fossile lui-même. On pourrait déjà constater qu'il y en a moins qu'il y a 2 ans. Au COP28, ils étaient 2500. Maintenant, on est à 1600. C'est une légère amélioration. Mais je trouve quand même extrêmement problématique que le secteur fossile a un tel pouvoir. Et ils sont là, en plus, avec des badges nationaux. Donc, ils entrent tout en faisant partie des délégations diplomatiques nationales comme la française.
C'est le cas de Patrick Pouyanet pour la France, effectivement. Est-ce que les négociations climatiques sont fragilisées, selon vous, par la présence en nombre de ces participants ?
En tant que lobbyiste, la présence... Ben, évidemment, évidemment. C'est vrai qu'il faut un savoir-faire précis sur le secteur fossile, oui, mais c'est un peu... C'est un peu comme demander aux dindes qu'est-ce qu'ils pensent de Noël. Mais oui. Oui, ils connaissent bien le secteur, mais il y a d'autres gens qui connaissent aussi bien le secteur, qui sont les universitaires, les académiques. Le jour où il y a plus, je sais, il y a deux ans, aux Émirats, il y avait plus de représentants du secteur fossile que des représentants des instituts scientifiques, des peuples autochtones ou des pays fragilisés par le réchauffement climatique. Alors là, il y a quelque chose qui cloche quand même.
Alors votre analyse des COP, hein, on en reparlera d'ailleurs, mais montre quand même que ces conférences sont dominées par la raison d'État. Pourquoi ce cadre-là rend la lutte climatique si difficile aujourd'hui ?
C'est ça la grande question. Quand la question climatique s'est posée dans les années 70, 70, c'est à peu près la même chose, et les années 80, l'humanité a fait le constat, il y a un problème, comment s'affronter à ce nouveau défi ? Et on a joué avec ce qu'on avait, c'est-à-dire le système des Nations Unies. Système qui date des années 40, d'après-guerre, mais qui n'ont jamais été conçus comme la solution pour des défis planétaires. Les Nations Unies ont été inventées pour arrêter la violence entre les États. Et ça a plus ou moins fonctionné, plus ou moins. Mais maintenant, c'est les Nations Unies qui doivent servir à gérer une forme de violence tout à fait autre que la violence interétatique, c'est-à-dire la violence entre l'humanité et la planète en tant que soi. Et donc là, on voit que c'est comme si nous sommes en train de réparer un smartphone de 2025 avec un marteau de 1945. C'est pas top comme outil.
Oui, donc on vient principalement défendre les intérêts nationaux immédiats. Et ça peut pas marcher pour un enjeu qui est planétaire, justement.
Les Nations Unies sont basées, je comprends le contexte et la motivation historique, les Nations Unies ont été créées sur base du respect total pour la souveraineté nationale. Évidemment, parce que c'était la réponse à la Deuxième Guerre mondiale où l'Allemagne avait envoyé la Pologne. Donc le respect pour la souveraineté, pour le territoire national était essentiel. Évidemment, c'était un cadeau, mais aujourd'hui c'est une entrave. Parce que la souveraineté nationale est devenue une notion assez obsolète quand on parle de toute une série de défis qui sont planétaires et qui se moquent de nos frontières nationales.
David Van Reybroek, Le Monde et la Terre, c'est le titre de votre livre. Expliquez-nous cette distinction fondamentale entre le monde et la Terre. Qu'est-ce qui les sépare fondamentalement ?
Il m'a fallu quelques années avant de me rendre compte que, mais tiens, ces deux mots qu'on utilise souvent comme synonymes, dans toutes les langues européennes d'ailleurs, the world and the earth, die Welt und die Erde, el mundo et la Tierra, on a ces deux mots et on dit, mais c'est à peu près la même chose. Et puis, il y a quelques mois, j'étais dans ma maison d'enfance, près de Bruges, à la campagne flamande. Ma mère était hospitalisée. Et dans mon armoire, je retrouve le globe terrestre que j'avais reçu, je pense, pour ma première communion, quand j'avais 6-7 ans. Et c'était l'espèce de globe en plastique avec un interrupteur.
Pour l'éclairer de l'intérieur.
Oui.
Très beau, d'ailleurs.
Très, très beau. La magie pour un enfant, je trouve que c'est toujours magique. Et le mien, c'était pas le plus cher, mais pourtant, il avait la particularité que dès qu'on allumait, on voyait les pays dans des couleurs différentes, avec leur capitale, avec leurs frontières, avec leur chemin de fer et tout ça. Et puis, dès qu'on coupait, on voyait la terre, les océans, les montagnes, les massifs, les rivières. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la distinction. Le monde, c'est le monde physique. L'entité physique. Le monde, c'est plutôt l'entité politique. Et le fait qu'on fond ces deux-là montre à quel point notre regard reste quand même très anthropocentrique.
Ouais.
On a du mal à... On est tellement obsédé par le monde qu'on a du mal à voir la Terre, parfois.
Alors justement, pourquoi cette distinction est importante aussi pour comprendre notre incapacité aujourd'hui à agir ? Parce que la Terre, c'est un système très vivant, et le monde, c'est pas tout à fait la même chose.
C'est pas tout à fait la même chose, et tant qu'on pense que c'est à peu près synonyme, on voit pas le problème. Le monde est donc l'entité anthropocentrique, c'est le domaine de l'humain, mais... Pour comprendre les enjeux planétaires auxquels on doit faire face, il faut se rendre compte qu'il y a une terre qui est en dehors de ce monde humain. Et donc, ce qu'on fait maintenant, on attaque les défis planétaires avec les instruments diplomatiques qui viennent historiquement de notre monde anthropocentrique.
Ouais.
Donc, et c'est là qu'on voit en quelque sorte qu'on est dans un mauvais domaine, en quelque sorte, qu'on agit avec des instruments du passé dans un secteur qui est fondamentalement différent.
En occultant donc aussi tout l'aspect physico-chimique aussi de la Terre.
C'est évident. Le monde a démantelé la Terre, et depuis quelques années, on voit que la Terre est en train de démanteler le monde. Et il faut penser... moi, j'étais étudiant, je suis heureux de me retrouver de retour à Paris aujourd'hui. J'étais dans les années 90, j'étais étudiant de Bruno Latour à l'École des Mines, quand j'étais thésard. Et j'étais très frappé par la distinction que lui, il faisait entre... La distinction qu'on a toujours pensé entre la nature et la culture. En fait, la distinction entre le monde et la Terre, c'est un peu parallèle. Et Latour disait, à très juste titre, on s'est donné l'illusion comme quoi l'humanité s'est décollée de la Terre, que le monde plaine facilement, tranquillement, et maintenant il faut, on se rend compte, mais tiens, cette Terre en dessous fait du bruit, nous donne des tourbillons, et donc la question se pose, où atterrir ?
C'est ça, c'était les derniers écrits de Bruno Latour. Hein.
Mais oui, et donc pour moi aussi, la question se pose aussi, d'où atterrir ? Si on pense pas à la distinction entre le monde et la Terre, on va jamais faire face aux défis planétaires tant qu'on utilise les instruments qui viennent de notre époque et de notre domaine.
L'un des grands défis, justement, si on s'intéresse à la question climatique, c'est de repenser aussi la diplomatie. Ça, c'est le cœur aussi de votre pensée. Ouais. Vous montrez que la diplomatie est restée très anthropocentrique, justement. Pourquoi ça pose problème lorsqu'on veut précisément s'attaquer frontalement aux enjeux climatiques aujourd'hui ?
Il y a deux problèmes avec la diplomatie actuelle. D'abord, elle est anthropocentrique, elle ne regarde que l'homme. Et en plus, elle n'est que internationale. Alors on dit international, c'est super, c'est mondial. C'est... Il m'a fallu aussi quelques années pour comprendre que le mot international ne veut que dire international, entre les nations. Donc ça implique une forme de horizontalité. C'est juste des conventions entre des États qui se pensent de manière souveraine. Et donc, il y a l'idée que je pense qu'on a fait une erreur colossale en pensant que les concertations internationales suffisent en tant que gouvernance mondiale. On n'a rien au niveau de gouvernance mondiale. On n'a rien au niveau de gouvernance de la Terre.
Qu'est-ce qui manque alors ?
Il manque des institutions proprement qui dépassent l'international, qui sont des institutions mondiales. On n'a pas des institutions mondiales. Tout ce qu'on a, et heureusement nous avons les Nations Unies, mais ça ne reste que des Nations Unies. Et c'est-à-dire que, voilà, et dans les Nations Unies, tous les pays viennent ensemble, mais à chaque COP, comme maintenant à Belém au Brésil, les Chinois arrivent. Oui, certainement pour servir la Terre, mais surtout pour servir la Chine. Même chose pour les Français, même chose pour les Belges et les Brésiliens eux-mêmes. Et donc, les pays pensent toujours comme des pays.
Ouais.
Ils sont incapables de dépasser la logique nationale.
Et vous décrivez aussi, finalement, la déconnexion entre l'action diplomatique et aussi l'inquiétude mondiale.
Ah ben oui.
La prise de conscience du problème par les populations elles-mêmes.
C'est fou, quand j'ai écrit le livre, j'avais découvert un sondage mondial, mais vraiment impressionnant, où des milliers, des dizaines de milliers de gens ont été interviewés sur leurs soucis dans 77 pays différents, qui représentent une totalité de 87% de la population terrestre.
Ouais.
Donc on peut vraiment dire, c'est la Terre.
C'est un bon échantillon. Hein.
C'est un bon échantillon.
Ouais.
Et là, on se rend compte qu'autour de 80% de la population mondiale se fait des soucis majeurs sur le réchauffement climatique et la fragilisation de la planète. Il y a même 86% de la population mondiale, des habitants, des gens comme vous et moi, qui disent « mais les États devraient être capables d'aller plus loin que les intérêts nationaux ». Alors que toute notre diplomatie actuelle, ceux qui sont à Belém maintenant au Brésil, sont axés toujours sur le principe de Richelieu qui date d'il y a 4 siècles, c'est la raison d'État. on est là, oui, pour servir le bien commun, et pas pour se faire trop mal non plus en tant que État-nation.
Et vous vous dites, il faut réfléchir à l'idée de la raison de terre, plutôt que la raison de l'État. On va en parler dans un instant, David Van Reybroek. C'est l'objet de ce petit livre fascinant, ça s'appelle Le Monde et la Terre, c'est publié aux éditions Actes Sud. Et puis vous répondrez également aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur la page de La Terre au Carré et sur nos réseaux sociaux.
Mathieu Vidard, La Terre au Carré.
Dans le décor doré de l'Opéra de Stockholm, les délégués des 112 pays participant à la première conférence des Nations Unies sur l'environnement ont été accueillis ce matin par le roi Gustave Adolphe. Les orateurs qui se sont succédés à la tribune ont insisté sur deux points. La nécessité pour les États de présenter un front uni dans la lutte pour l'environnement. Et puis, les résolutions auxquelles ils aboutiront n'auront pas d'effet contraignant. Il est probable également qu'un organisme permanent sera créé au sein des Nations Unies afin de coordonner les efforts internationaux pour un environnement mieux protégé.
Une archive de l'ORTF de juin 1972, l'ouverture donc de la première conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm. Vous, David Van Reybroek, qui publiez aux éditions Actes Sud Le Monde et la Terre, comment les préserver, et qui propose donc d'intégrer l'intérêt de la planète dans la gouvernance mondiale. Un petit mot de commentaire sur cette archive de 1972, l'environnement sans contrainte. Ah. Ça dit beaucoup de tout ce qui va suivre après, non ?
Exactement. Je trouve que la logique et l'intelligence de cette époque, on l'a perdue. Allez, aujourd'hui, nous célébrons le 10e anniversaire de l'accord de Paris. Fantastique. Mais qu'est-ce qu'on a fait dans ces 10 dernières années ? C'est tellement frustrant. Et c'est le moment où on doit se poser la question, mais est-ce que notre modèle de gouvernance, est-ce que notre modèle de concertation, est-ce que notre modèle de diplomatie suffit vraiment, est vraiment à hauteur de la tâche qui nous attend ? Et je pense que la réponse est non. Et donc, tant qu'on reste là avec une logique de pays-nation, des nations qui défendent leurs propres intérêts, la seule chose qui a changé dans les 10 ans, c'est que le nombre de lobbyistes fossiles a augmenté. C'est la seule chose.
Oui.
C'est un peu un fumeur.
C'est un triste bilan quand même.
C'est un fumeur de camel qui a commencé à fumer des gitanes. Mmh. Voilà, c'est de pire en pire. Je trouve que c'est un triste bilan.
Qu'est-ce qui pourrait remettre tout cela en question d'ailleurs aujourd'hui ? Qu'est-ce qui aurait la puissance ?
Mais si on voit qu'il y a une sagesse mondiale quand on regarde les sondages dont on vient de parler, où on voit que 86% de la population planétaire aimerait voir que nos pays dépassent un peu leur logique égoïste de rester juste dans le cadre de la raison d'État, les intérêts de la France, de la Belgique, de la Hollande. Et je pense qu'il faut... Il s'agit du futur des habitants de la Terre. Mais où est l'endroit où les habitants de la Terre peuvent s'exprimer ? Nulle part. On n'a pas des institutions vraiment mondiales.
Le vote, quand même, c'est une façon de s'exprimer.
Mais ça reste limité
au pays.
Au pays.
Oui.
Et heureusement, ici en Europe, on a la chance d'avoir l'Union européenne. Donc on vote déjà pour quelque chose qui dépasse. Mais
oui,
à l'échelle mondiale, il n'y a pas une Union européenne. Il y a juste les Nations Unies, ce n'est pas la même chose. Ça reste assez gratuit, en quelque sorte. Ils se retrouvent une fois par an. Ils sont en deuxième semaine maintenant au COP. Encore quelques nuits blanches et quelques colères pour avoir un bilan, un texte final qui va être un compromis très fade, sans aucune contrainte. Et un an après, ils vont se revoir pour répéter cette kermesse. C'est frustrant. On est face à une incendie planétaire et on est complètement bloqué. Allez, si la Terre était un pays comme la France, ce pays serait gouverné par une conférence de maires. C'est ce que nous avons aujourd'hui. On a juste ça. Il n'y a pas une assemblée nationale, il n'y a pas un gouvernement national, il y a juste une assemblée une fois par an. Les maires de la France se mettent ensemble pour bavarder, pour papoter, pour galérer, pour avoir un texte de compromis très fade à la fin, et puis tout le monde rentre dans son village, et c'est tout.
Est-ce que ça veut dire que ça sert absolument à rien d'organiser des COP ou pas, selon vous ?
Mais heureusement que nous avons le COP, mais c'est très incomplète comme modèle. Moi, j'ai très peur que le COP va devenir la société des nations de notre temps. Dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20 et 30, il y a eu une tentative de mettre sur pied une formule de gouvernance mondiale à travers la société des nations, mais ça a été complètement barricadé et inutile suite à des problèmes internes et externes. Et j'espère que le COP va reprendre le relais, et je suis légèrement optimiste parce que la PDG du COP brésilien, Anatoni, je pense que c'est une femme formidable. Elle est la ministre ou la secrétaire d'État pour le climat au Brésil maintenant. Et c'est elle qui préconise qu'il faut non seulement augmenter le chiffre de lobbyistes, elle dit mais non, il faut augmenter le chiffre des citoyens. Et elle a publié avec Laurence Tubiana, la grande française, une dame que j'admire énormément, qui a négocié, une des négociateurs les plus importants.
De l'accord de Paris.
De l'accord de Paris. Ils ont publié ensemble, encore il n'y a pas longtemps, un argumentaire en disant mais il faut vraiment inclure les citoyens dans la gouvernance mondiale.
Oui. Alors on va en parler évidemment dans un instant, parce que ça aussi c'est au cœur de votre réflexion, David Van Reybroek. Vous évoquez d'abord un nouveau principe que vous appelez la raison de terre, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est quoi cette approche exactement? Qu'est-ce que ça dit?
Je pense que si... c'est très simple. À défi planétaire, solution planétaire et donc aussi institution planétaire. Pour l'instant, nous ne les en ferons pas. Et donc, je pense qu'il faut combiner la raison d'État qu'on pratique depuis 4 siècles avec une nouvelle notion diplomatique qui est à développer, qui c'est la raison de terre. Et la somme des raisons d'État ne fait pas encore raison de terre. C'est la logique dans laquelle on se retrouve maintenant. Si chaque pays pense pour soi, on ne va pas arriver à sauver la planète.
D'autant que les crises écologiques, elles ne respectent pas les frontières. Hein.
Exactement. Nous venons, au mois de septembre, nous venons de dépasser la 7e frontière critique sur les neuf limites planétaires qui ont été établies par l'Institut de Potsdam. Donc voilà, 7 sur 9 ont été dépassées. Le 8e, on ne sait pas. Le 9e, c'est le trou dans la couche d'ozone. Ça, c'est le seul qu'on a pu gérer. Donc 7 sur 9, c'est quand même un peu critique. D'en plus, au mois d'octobre, il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons constaté que le premier point de basculement a été atteint. Les coraux tropicaux sont perdus. Et donc, à ce moment-là, on doit se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avec toutes les bonnes intentions, soyons naïfs, qu'il y a encore des bonnes intentions, on n'arrive pas à gérer les vrais défis planétaires parce qu'il n'y a pas une raison de terre. Tout le monde est là avec une raison d'État, le principe des riches lieux qui date d'il y a 4 siècles. Pour la France, ce serait une bonne chose que, maintenant, tout le monde raisonne toujours comme ça, c'est pas comme ça qu'on va sauver la planète. Et donc je pense qu'il faut développer une raison de terre pour laquelle il faut vraiment s'inspirer de toute une série de traditions spirituelles, religieuses, philosophiques, morales que nous avons.
Oui.
Mais on fait à peine recours à ça.
Oui.
Ou plutôt, on fait recours aux lobbyistes fossiles.
Ça, c'est un changement de logiciel complet, hein, de pouvoir justement intégrer dans les réflexions d'autres entités qui ne soient pas celles uniquement des humains.
Ce serait déjà bien si on arrive à dépasser le niveau national ou le niveau international et qu'on arrive à inclure l'humanité. Ce serait déjà une bonne chose. Et il y a quelques années, il y a eu une assemblée mondiale qui consistait, c'était une assemblée mondiale tirée au sort. Je pense que le NASA avait mis 100 points sur la carte mondiale en fonction de la densité démographique. Et donc un échantillon de 100 terrestres se sont mis ensemble en ligne pendant 12 semaines pour rédiger une déclaration de l'Assemblée mondiale. Si on lit ce texte, il y a une sagesse, il y a une beauté. Et là, on voit que des citoyens lambda tirés au sort dans la totalité de la planète, selon les proportions démographiques, je pense qu'il y avait 18 Indiens, 18 Chinois, 5 Américains, quelques Européens, quelques Russes, des Africains et tout ça. Ils se sont mis ensemble.
2021, c'est ça hein?
C'était 2021.
Cette initiative dont on a peu entendu parler. Hein?
Non, mais maintenant, ceux qui étaient derrière cette initiative sont maintenant ceux qui sont en train de parler à Laurence Tubiana, à Anatobi. Et à partir de janvier, on va mettre sur pied une deuxième tentative, mais cette fois-ci, beaucoup plus incrustée avec le débat diplomatique qui prépare le prochain COP. Donc entre le COP 30 et le COP 31, il faut insérer les citoyens du monde. Je pense que c'est un pas dans le bon sens. On n'y est pas encore, mais au moins l'effort est fait pour inclure des gens qui parlent en tant qu'humanité, plutôt en tant que représentant d'un État-nation.
Et ça, vraiment, cette Assemblée pourrait porter les voix de générations futures, présentes et futures, selon vous ?
Ça serait encore... Je pense d'abord, il faut dépasser des diplomates nationaux et aller vers des assemblées mondiales, ce serait déjà une bonne chose, pour qu'ils représentent l'humanité présente. Deuxième étape, faire à ce que cette humanité actuelle représente aussi les générations futures. Troisième étape, c'est de pouvoir inclure les entités non humaines. humaine. Oui. On n'y est pas encore.
Oui. Alors, les savoirs autochtones, par exemple, hein, vous soulignez vraiment l'importance de les intégrer pour nourrir, justement, cette politique de la Terre par des philosophies non occidentales.
Oui, évidemment.
Pourquoi cette ouverture, selon vous, elle est essentielle aujourd'hui?
Déjà, la population... soi-disant, on dit quoi en français ? Indigène ou autochtone ?
Autochtone,
quel est le mot politiquement correct ?
On peut dire les deux. On peut dire les deux.
On est les deux, d'accord.
Autochtone.
Les populations autochtones, déjà, ils sont minoritaires au niveau planétaire, mais ils vivent dans les environnements qui représentent 80% de la biodiversité. Hmm. Donc, ce sont les gardiens de la biodiversité. Il y a ça. D'autant plus, leur mode de vie est beaucoup plus durable que notre système. Il y a une sagesse dans leur mode de vie. Nous, oui, on a fait du progrès. C'est vrai, pour les humains, pour une partie de l'humanité, on a fait des progrès incroyables. Mais ce progrès est venu avec un prix énorme. C'est la souffrance planétaire que nous vivons actuellement. Et donc, je pense qu'il faut absolument insérer... déjà, la diplomatie internationale de nos jours est très inspirée de la diplomatie européenne du XVIIe, XVIIIe siècle. Et avec la décolonisation... dans les années 50, 60 du XXe siècle, on a vu que la plupart des anciennes colonies, au lieu de s'inspirer de leurs traditions spirituelles, religieuses, morales, éthiques de leur pays, ont plutôt copié le modèle européen. Donc malheureusement, la raison d'État est le bien français le plus répandu du monde.
Donc si on voulait contribuer à une vision politique universelle, il faudrait justement intégrer, en tout cas nourrir ces politiques par d'autres façons de voir le monde.
Hein. C'est évident.
Et elles existent, c'est ces
évident.
Autres façons de voir le monde. Mmh. En ce moment, donc, se joue la COP30. Ça nous dit beaucoup aussi de l'avenir de la diplomatie planétaire. On va en parler avec vous dans un instant, David Van Reybroek.
Oui.
Et puis, vous répondrez aux messages, aux questions pour vous, voire les messages vocaux qui arrivent sur l'application Radio France.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Une scène rare s'est déroulée lors de la COP30. Plusieurs dizaines de manifestants des peuples autochtones brésiliens ont forcé l'entrée du site. Ces manifestants ont ensuite été repoussés par les agents de sécurité. Ils terminaient une marche pour le climat et la santé organisée par l'organisation Rede Sustentabilidade Bahia, qui a pris ses distances avec ces événements. Ces heurts et le mécontentement des manifestants tranchent avec la volonté du Brésil de faire de cette conférence la meilleure COP en termes de participation indigène, comme l'avait assuré la ministre des Peuples indigènes, Sonia Guajajara.
France Info, c'était le 14 novembre dernier. David Van Reybroek, vous êtes notre invité avec ce livre aux éditions Actes Sud, Le Monde et la Terre, comment les préserver ? J'aimerais vous entendre sur ces peuples autochtones du Brésil, hein, qui sont quand même chez eux, dans cette région de Belém. 50 000 participants quand même dans les manifestations donc des peuples autochtones pour représenter la voix des personnes invisibilisées par les négociations officielles. Comment est-ce que vous comprenez, vous, à la fois leur désir de se faire entendre et la réception de leur présence.
J'ai aussi vu, comme tout le monde, les images où ils pénètrent la zone bleue, le secteur intime du COP où le vrai pouvoir se joue, et je les comprends tout à fait. Tant que ces gens sont exclus des endroits qui vont décider leur futur, ils vont essayer de casser la porte. Et je comprends tout à fait, c'est leur futur qui est débattu là-bas, mais ils n'ont pas leur mot à dire. Et donc tant qu'on exclut les gens, et surtout les populations autochtones, leur voix ne va que monter en puissance.
Tout ça dans le pays de Lula, quand même, c'est incroyable, non ?
Je trouve que le Brésil joue un rôle très double dans tout ça. Il y a un côté progressif chez Lula, il y a une longue tradition brésilienne de participation citoyenne, de budget participatif, il y a quand même Porto Alegre, il y a tout ça. Il y a ce côté de Brésil, il y a Anatoni qui est la PDG de ce COP, elle est une dame formidable. Et de l'autre côté, Lula veut aussi que le Brésil devient un pétro-État. Et maintenant, hier, j'ai entendu à la BBC, il y a même le danger que le grand contrat sur le refus du soja de la forêt vierge amazonienne, que cette convention, qui date depuis 2008, je crois, sera peut-être terminée pour que les McDonald's peuvent quand même acheter du soja brésilien.
Et déforester pour planter leur soja à la place.
Et déforester.
Donc virer aussi des populations.
Virer des populations, on parle des plantations de la taille du Portugal, Portugal donc, dans la forêt amazonienne.
Et on a vu d'ailleurs dans les images aussi à Belém, beaucoup de présence policière et militaire. Hein. C'est vraiment une présence accrue en tout cas, face à ces mobilisations populaires pourtant. Il y a quelque chose de très choquant dans ces images.
Il y a quelque chose de très choquant et qui est complètement compréhensible.
Oui.
Tant qu'on exclut les gens ordinaires, alors qu'ils sont très souvent extraordinaires, tant qu'on les exclut, ils vont frapper à la porte de façon de plus en plus forte.
David Van Reybroek, votre réflexion invite à penser le long terme. Ce n'est pas possible d'imaginer, évidemment, hein, une gouvernance mondiale si on pense avec l'esprit, le logiciel des politiques, qui est évidemment très très court. Ouais. C'est une nécessité si on veut y arriver sur le front climatique.
Mais il faut penser le long terme. Nous vivons dans un drôle d'époque. Il faut agir sur le court terme parce que les défis sont là. Ils sont une actualité brûlante et l'urgence est là. Et en même temps, il faut penser le long terme aussi. Je sais aussi qu'une raison d'être, qu'une diplomatie vraiment planétaire ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais c'est notre devoir en tant que penseur, en tant qu'écrivain, de proposer des idées qui sont précoces en quelque sorte. À la fin du XVIIIe siècle, je ne veux pas faire la comparaison, mais Immanuel Kant avait proposé que pour avoir la paix éternelle, il fallait peut-être regrouper des États souverains sous une forme de fédération. Tout le monde disait, mais enfin, Emmanuel, avec quoi est-ce que tu viens maintenant? Mais il avait quand même raison. L'Union européenne est quand même la réponse à cet appel. Il a fallu un siècle et demi, deux siècles, avant que la rêve d'Emmanuel Kant s'est concrétisée. Mais heureusement que nous avons l'Union européenne. Moi, j'aimerais bien que la planète entière vivait sous une forme d'Union européenne, pour qu'on ait au moins une petite échelle qui dépasse... gentiment le niveau national.
Oui, parce que j'allais vous dire, est-ce que le Green Deal européen, par exemple, il est à la hauteur des enjeux aujourd'hui?
Non plus, il a été très affaibli.
Et quand on voit la façon dont l'Europe se couche aussi face aux États-Unis,
je trouve que l'Union
européenne... Il n'y a pas de quoi être fier de l'Europe non plus, non?
Non, je trouve que l'Union européenne est une union complètement imparfaite, mais je suis tout de même content que nous l'avons, parce que ça permet, c'est la seule instance mondiale qui force des nations indépendantes à suivre un certain nombre de critères et un certain nombre d'engagements. Et là, c'est un peu plus contraignant que les Nations Unies. Moi, j'aimerais bien que les Nations Unies développent dans un système un peu plus contraignant de ce que nous avons maintenant. Et je pense que l'Union européenne est un exemple avec beaucoup de faiblesses, mais que le monde apprenne quelque chose de nos erreurs, de nos faiblesses que nous avons fait pendant les années, les décennies de l'existence de l'Union européenne.
Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour que l'intérêt de la planète devienne vraiment aujourd'hui un principe politique majeur?
Très bonne question. Il y a beaucoup de gens dans les médias et dans la politique qui pensent que pour les citoyens lambda, le thème n'est plus là. Ah, le climat, ça fait tellement 2019. Ça fait tellement Greta Thunberg qui était encore un teenager à l'époque. Mais du moment qu'on parle aux citoyens, on voit que le souci est toujours là. Mais avec l'effet Trump, nous vivons maintenant un peu dans une époque de myopie géopolitique. On pense à Trump, on pense à l'Ukraine, et tout ça est bien sûr très important. Mais les grands enjeux, la plus grande question sécuritaire de notre temps, c'est pas de savoir si les Russes vont arriver, c'est d'être sûr que les canicules vont arriver. Et je trouve curieux et abominable que les nations européennes trouvent 800 milliards de dollars du jour au lendemain pour la défense européenne, alors que c'est une capacité, une compétence nationale, et tout cet argent qui n'a jamais été trouvé pour les vrais enjeux de sécurité qui sont le climat et la perte de biodiversité et les franchissements de toutes les limites planétaires. On se trompe d'ennemis. Franchement, on se trompe d'ennemis. Le plus grand défi sécuritaire, le plus grand défi sanitaire reçoit presque aucune réponse sérieuse. Moi, je pense, comment est-ce que le futur va nous juger? Mais ils vont dire, mais ils ont été complètement, je vais le dire de façon flamande, ils ont été complètement cons dans les années 2020. C'était l'époque où ils pouvaient encore faire quelque chose et ils se sont bornés à des conflits anthropocentriques.
Il y a un manque de courage institutionnel flagrant aussi, David Van Reybroek?
Absolument. Absolument. Et il y a un manque de courage. Nous vivons dans un temps d'évolution hyper rapide et, puis il y a une lenteur institutionnelle et un refus. Heureusement que nous avons, moi j'ai une admiration énorme pour Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Je pense que c'est un des plus grands secrétaires généraux que les Nations Unies ont eu. Mais même la bonne volonté et l'énergie incroyable de ce seul monsieur n'arrive pas à déboulonner un système qui est complètement verrouillé depuis les années 40 du siècle passé.
Allez, on va passer aux questions pour vous. Marie dit ceci, pourquoi est-ce qu'on n'utilise que très peu le mot terrien ? Peut-être, dit-elle, cela nous rappelle-t-il notre insupportable fragilité sur notre vaisseau bleu au milieu du vide, dit-elle. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est vrai que quand j'ai préparé, c'est la première fois que je parle de mon livre en français.
Ouais.
Et je ne savais pas trop bien, est-ce qu'on dit habitant de la Terre ou terrien ? Terrien,
ouais, terrien,
ça,
ouais.
Terrien, ça fait un peu... Il y a les extraterrestres, il y a les terriens, ça fait un peu futuriste. Ouais. Mais j'aime bien le mot terrien, en quelque sorte. Mm-hmm. Parce que ça fait le rapport entre l'humain et la Terre. Et j'aime bien aussi la notion de Philippe Descola, de ne plus parler de nature ni de culture, mais du vivant. Et c'est une notion qui me semble vraiment essentielle.
Patrice nous dit, si les dirigeants ont leur part de responsabilité sur la dégradation de la planète, les citoyens n'en sont pas moins responsables. Entre leur prise de conscience du problème et leur comportement positif effectif, il y a une distance énorme, soumis qu'ils sont aux sollicitations consuméristes.
Ah, mais ça c'est tout à fait le cas. Et ce que moi j'ai constaté, parce que j'ai beaucoup, les 15 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur la participation démocratique, la démocratie délibérative, le tirage au sort. Et là on voit la transformation du voteur en rage qui ne va pas changer son comportement vers le citoyen responsable qui comprend les enjeux et qui fait quelque chose à son comportement. Et je pense que la plupart des gens, ça montre aussi dans les sondages, j'ai vu que 69% de la population mondiale serait prêt à donner 1% de son revenu pour une taxe pour stopper le réchauffement climatique. Donc là, on voit qu'il y a quand même une volonté tant que c'est perçu comme étant équitable et fair. Quand on a l'impression que moi, en tant que petit citoyen, je dois payer alors que des impôts supplémentaires, alors que les grandes sociétés et les riches ne doivent pas le faire, il y a une sensation de frustration.
Tanguy dit dans son message, une Union européenne, oui, mais portée comme actuellement par les droites quasi extrêmes. Comment faire, dit-il ?
Ben c'est vrai que dans le Parlement européen, actuellement, il y a un tiers de votes, je crois, à peu près entre un quart et un tiers de votes qui sont dans l'extrême droite. On voit en même temps que la confiance dans l'Union européenne n'a jamais été aussi élevée dans les dernières 18 années, je crois. C'est l'effet Ursula von der Leyen, il faut l'admettre. Il y a un sérieux, je trouve, avec le Covid, avec l'invasion russe. L'Europe se construit de crise en crise et je trouve que la confiance des citoyens européens est retournée en quelque sorte et je pense que l'Europe, voilà, c'est pas du tout parfait, mais heureusement que nous l'avons tout de même.
Merci beaucoup David Van Reybroek, vous qui avez reçu récemment le titre de penseur national des plats pays,
oui.
Belgique et Pays-Bas. Donc,
oui, c'est la haute pensée pour les plats pays.
Merci d'être venu à ce micro, on était ravis de vous accueillir.
Merci.
Vous êtes l'auteur entre autres de ce livre Le Monde et la Terre, comment les préserver, c'est aux éditions Actes Sud.